Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler du pôle emploi qui s'est fait pirater, de plein d'autres news tech. Nous sommes quel jour? Nous sommes le vendredi 18 juin 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie pour bien terminer cette semaine. Il fait chaud, il fait humide, c'est les tropiques, c'est un four. C'est-à-dire, je suis dans les couleurs d'un four. Alors, ça va un petit peu mieux, on respire, vu qu'il pleut un peu la nuit. Comment vous allez bien? Merci Baron Marutan pour ton Prime, 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup Samuel également, 15e mois. Merci beaucoup, déjà 15 mois exactement. Bonjour à tous, ça va, il fait assez frais. Vous avez fait un café frappé, un thé glacé. Prêt pour une bonne journée. Je suis un peu couleur Trump ce matin. Écoute, tant que c'est que la couleur... Ça va. Exactement. Attends, on me dit quelque chose. Le volume est un peu bas. Merci, la modération. Attendez, je vais augmenter un tout petit peu le gain. J'ai changé un truc sur mon micro. Attendez, je vais monter un tout petit peu là aussi. Là, ça devrait être un peu... Mais oula, ça sature ou pas? J'ai une saturation sur mon toussement. Voilà, là, c'est mieux. Ok, on va rester comme ça. Bon, allez, de quoi on va parler ce matin? On va regarder ça ensemble, comme d'habitude. On va parler de 1,2 million d'entrées dérobées sur Pôle emploi. Finalement, le hacker aurait renoncé à les mettre en vente par empathie. Quelle est cette sombre histoire? On parlera du Let's Phone 1. Leica lance son premier smartphone au Japon. J'en profite d'ailleurs pour remercier Ted qui a fait passer l'info sur Twitter hier et que je salue au passage parce que je sais qu'il a des pépins de santé. Et ben écoute, on est de tout cœur avec toi Ted. On était passé dans ton émission. Et un grand merci et force et courage à toi. On parlera également de l'E3, on va faire un petit bilan des meilleurs jeux, vous me direz aussi un petit peu ce que vous avez retenu, les meilleures annonces de cette édition par Presse Citron, commentées par le Mug Now Tech. On parlera également, et ça continue après, ok, Amazon retire les produits RAV Power de son catalogue. Amazon continue à faire la chasse aux faux commentaires. Donc ça se continue, RAV Power, il y a aussi Tao Electronic qui est en fait la même marque que RAV Power, enfin la même compagnie que RAV Power qui a été bloquée. Voilà, donc ça continue. On parlera également, et ça c'est assez surprenant, mais Apple pourrait ouvrir des corners dans les boutiques LG en Corée. Et pourquoi ça? Je vous expliquerai. On parlera ensuite, bien sûr, de nos merveilleux sponsors. J'ai bien sûr parlé de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. On parlera également... Ah oui, ce que je devais vous dire. Pritel, normalement, on devait recevoir David, qui est le CEO, le patron de Pritel, en fin d'émission. Il a eu un empêchement, il s'en excuse auprès de vous. On n'a pas pu reporter avant l'arrêt du mug, qui sera le 2 juillet. Donc, on recevra David à la rentrée. Donc, désolé, gardez vos questions au chaud. N'hésitez pas, si vous avez des questions urgentes, à les poser à Pritel directement sur les réseaux sociaux. Et sinon, ça sera effectivement à la rentrée. On parlera bien sûr d'ExpressVPN, également notre deuxième sponsor de l'émission. On reviendra aussi rapidement sur l'opération caritative, la Tombola Reporter sans frontières. C'est bientôt la fin, on vous pressera d'y participer. Et nous terminerons avec une tartine tous ensemble, puisqu'on va parler de VivaTech. Et on fera un petit tour d'horizon de choses assez intéressantes à voir à VivaTech, sachant que Guillaume sera en live ici demain, vers 10h30. Il sera accompagné de Léo Techmaker, d'ailleurs. Ils commenteront pour vous un petit peu VivaTech 2021. Moi, je ne pourrai pas y être demain matin parce que, travaux. Voilà. Mais vous serez en très bonne compagnie avec Guillaume et Léo. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autre. Comme dit la formule consacrée. Je suis au Japon. Ah, je pense que... Ah non, tu parles à quelqu'un d'autre. Remboursé. Mais il faut payer pour être remboursé, Maya. C'est le changement d'heure ce week-end, je suis en train de penser. Non, c'est le changement d'heure, dites-moi. Il est 15h au Japon. Qui a été remboursé? Personne. Le mug est international. Non, c'est pas un changement d'heure. Ah, c'est fait depuis mars. Je suis paumé, moi. Je suis paumé de chez paumé. Donc, il est temps de lancer le Kawa. Et on va commencer en parlant effectivement de ce qui s'est passé à Pôle emploi. Les données personnelles d'1,2 million de personnes pourraient bien avoir été hackées et proposées à la vente sur Red Forum pour une somme de 1 000 $, soit 840 euros au 17 juin 2021. L'auteur de l'annonce laisse entrevoir quelques détails afin de certifier qu'il s'agit bien de données personnelles promises, donc de chercheurs d'emploi qui sont à Pôle emploi. Il y aurait des informations comme le nom, l'âge, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la commune d'habitation, le niveau d'études, l'expérience, la détention d'un permis de conduire, d'un véhicule, des individus concernés. Des données qui, selon toujours cet utilisateur du forum, dateraient de 2021, donc des données fraîches de Pôle emploi. Pour l'instant, Pôle emploi n'a pas confirmé l'information. Ils ont seulement annoncé mener une enquête en interne sans confirmer, infirmer ni évoquer l'étendue potentielle de ce piratage de données. La capture d'écran a été réalisée par quelqu'un qui a le pseudo de Bluetooth, pas Bluetooth, mais Bluetooth, voilà, la touffe bleue. Relayé par quelqu'un dont le pseudo est Pie with Nothing, et ça serait lui qui mettrait en vente effectivement le fichier. Et retournement de situation, Pie with Nothing aurait finalement renoncé à mettre en vente les données piratées dans un post publié le 16 juin 2021, réédité 6 fois depuis. Le hacker annonce « Une personne m'a écrit en privé et expliqué qu'il s'agissait d'une base de données gouvernementale pour les chômeurs. » Donc le mec, il a tapé dans la base de données, il savait même pas ce qu'il était en train de faire. Hein. A priori, tel qu'il le dit. Qu'il s'agissait d'une base de données gouvernementale pour les chômeurs. J'ai montré de l'empathie, je n'ai vendu ces données à personne, je les ai retirées de la vente. Les chômeurs français peuvent dormir tranquilles, personne n'a dérobé leur identité. Mais bien évidemment, comme d'habitude sur ce type de forum et Red Forum, on en avait déjà parlé, hein, le gouvernement indonésien a bloqué ce forum puisque plus de 200 millions de données personnelles des citoyens d'Indonésie traînent dessus. C'est un forum effectivement de vente de données piraté. Et voilà, ils disent... Là, le mec nous dit, je savais même pas que j'étais en train de pirater le Pôle emploi en France. Je savais même pas que c'était des chômeurs. Ok ? Là, il dit, je vais pas faire payer. Voilà. Quelle plaie, ces hackers ? C'est clair. Encore une fois, et on sent la vulnérabilité des instances étatiques, des fichiers comme ça de demandeurs d'emploi, c'est extrêmement sensible hein, quand même. C'est une donnée... Dans, quand les gens qui disent « j'ai rien à cacher », ça me fait toujours rire. Donc effectivement, toi, ça ne te dérange absolument pas qu'il y ait des données du pôle emploi qui se baladent ou ce genre de choses. C'est très délicat quand même comme donnée. Attendons quand même les résultats de l'enquête, dans quelle mesure effectivement Pôle emploi avait protégé cette base de données. Base de données qui est incontournable, parce que je pense que certains vont dire « mais moi, je ne vais pas donner mes données à Pôle emploi », mais tu es obligé de donner tes données à Pôle emploi. On est obligé. Donc, c'est quand même... plus on va vers le numérique, plus il y aura ce genre de problème. Effectivement, c'est la contrepartie effectivement de la numérisation des données et de l'utilisation de bases de données au niveau administratif. Il va falloir qu'on bosse beaucoup, beaucoup plus et beaucoup plus sérieusement au niveau de la sécurité, du chiffrement des données, des garanties, parce que c'est effectivement extrêmement délicat. Alors, certains, moi je l'ai vu dans les réactions, ont dit « ouais, il est complètement con, pirater les données des chômeurs alors qu'ils n'ont pas d'argent, le fichier il vaut rien ». Il y a des chômeurs qui ont de l'argent. Hein. N'oubliez pas que le chômage est proportionnel au salaire que vous touchiez avant. Donc, il y a des gens qui touchent des sommes assez confortables au Pôle emploi. Donc, Pôle emploi ne veut pas dire pauvre, forcément. Message de Pôle emploi, on avait pourtant mis un Avira gratuit sur nos Windows XP. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Et le marché de la recherche d'emploi est un marché extrêmement lucratif. Hein. Donc, c'est des fichiers qui valent cher, en fait. Oui, je sais que c'est plafonné. Enfin, je connais le Pôle emploi, hein, quand même. Je sais comment ça fonctionne. Mais on ne peut pas dire que tous les chômeurs sont... Toutes les personnes en situation de chômage... Chômeur, c'est un peu péjoratif, mais toute personne en situation de chômage, en recherche d'emploi, ne sont pas forcément des personnes pauvres. C'est ça que je voulais dire. Il y a plein d'utilisations de données hyponymies sur des chercheurs d'emploi. Ah, bien sûr, tu peux ne pas donner tes données au Pôle emploi, mais enfin, derrière, tu ne peux pas demander, effectivement, à avoir un chômage, quoi. Et puis, pour ce que je connais, hein, l'utilisation des fichiers pour créer des profils publicitaires, en fait, vous raisonnez en vous disant que quand on crée des profils publicitaires, par exemple, on va prendre les caractéristiques des gens et c'est ça qui va créer les profils. En fait, ce qui est plus efficace, souvent dans la création comme ça de profils publicitaires, c'est d'exclure des gens. Que d'ajouter des données, en fait, c'est d'exclure des groupes de personnes de la base de données. Donc, ça peut être aussi utilisé dans ce sens-là, quoi. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, permis, voiture, études, intérêt, niveau d'études, si c'est pas personnel, tout ça, carrément, effectivement, oui. C'est rassurant, les gens qui repèrent pas l'intérêt de ces bases, déjà on sait que c'est pas eux les hackageurs. Oui, c'est un peu bien vu, quoi. Un peu bien vu. Bon, inquiétant, attendons un petit peu, justement, de voir qui est responsable de quoi. Mais c'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant ce genre de choses qui arrivent quand même. On passe à l'article suivant. On va parler de Leica. Leica, vous connaissez, c'est une marque centenaire dans la photo. C'est une marque allemande à l'origine. Depuis, elle a été vendue, revendue, revendue. Je sais même plus à qui ça appartient, Leica, maintenant. Ça appartient à un groupe chinois, non? Je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises. Je sais même plus à qui ça appartient. Bref, c'est une marque historique de la photo. La photo, vous le savez, est en marché en mutation profonde. On n'a jamais pris autant de photos. Non, Leica, c'est allemand à la base. J'en suis presque sûr que c'est allemand et pas russe. Non, DJI, ils ont acheté Hasselblad. Pas Leica. C'est toujours allemand. C'est toujours allemand, Leica. Non, en fait, Steve, je pense que tu confonds avec le premier animal dans l'espace qui était russe, qui s'appelait Leica aussi, mais avec un K, je pense. Et avec un... Oui, ça ne s'écrit pas pareil, Leica. Vous confondez la chienne et l'appareil photo. La première chienne dans l'espace. La pauvre, qui n'est jamais revenue. Oui, Leica Camera, c'est fabrication allemande. Bon, bref, tout ça pour dire. Leica s'est un peu adapté quand même au nouveau marché. D'abord, ils ont des appareils photo numériques, mais surtout, on l'a vu notamment avec Huawei, ils ont signé des partenariats avec des fabricants de smartphones pour les aider souvent à étalonner leur appareil photo. Il y a un peu une... On en parle souvent dans nos tests de smartphones. Ces trucs qui sont signés, ben, Hasselblad, justement, récemment a signé, je crois que c'est pour OnePlus. Voilà, des marques historiques de photos apposent leur label sur des smartphones. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui fabriquent l'appareil photo dans le smartphone. Il y a un peu une confusion là-dessus. C'est souvent, je vais vous dire, c'est même pas des ingénieurs de Leica qui vont chez Huawei pour faire l'appareil photo. C'est plus les ingénieurs de chez Huawei qui envoient leurs algos de traitement d'image à Leica, où il y a un ou deux ingénieurs de Leica qui disent « Ouais, ok, ça c'est bon, ça non, vous remontez un peu les rouges. » Et boum, ok, vous avez le droit d'utiliser le logo Leica. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est pas forcément du bullshit, mais c'est moins d'implications que le consommateur non averti peut le croire. Moi, j'entends des gens dire « Oui, j'ai un appareil photo Leica dans mon smartphone. » Non, non, non. En fait, pas vraiment. Est-ce que Leica y trouve un intérêt, Yves Castel ? La moula. Ça paye très, très cher. La vente de licence, comme ça, c'est un sceau d'approbation. En fait, ils vendent la marque comme un label. Et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Et plus récemment, d'ailleurs, ils ont participé justement à la conception d'un smartphone pour Sharp. Et oui, Sharp fait des smartphones, j'avais un peu oublié. Sharp, marque japonaise. Eh bien, on apprend que Leica a finalement décidé de franchir le pas et de dépasser le cadre des collaborations en lançant son propre smartphone. Donc là, ce n'est pas un smartphone labellisé Leica. C'est un smartphone Leica. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est pas tout à fait ça quand même. Premier smartphone de la firme allemande, il rend hommage à son fondateur Ernst Leitz en proposant une fiche technique haut de gamme. Équipé d'un Snapdragon 888 flanqué de 12 Go de RAM, le Leitz Phone 1 met évidemment l'accent sur la photo avec un imposant capteur d'un pouce de 20 mégapixels. L'objectif ouvre à f1.9 avec une focale équivalente à 19 mm. Impressionnant, ce grand capteur se veut polyvalent et doit combler toutes les attentes. Grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Il ne précise pas, mais si on regarde la photo, ce n'est pas un appareil photo multi-objectif. Il y en a deux sur le côté là, mais je pense plus que c'est des capteurs de profondeur ou d'aide à la mise au point. Il y a l'air d'avoir un seul objectif central ici, mais comme il est grand angle, à mon avis, pour faire du portrait et tout ça, ils doivent croper dedans. Je n'ai pas plus de précision, donc je ne pourrais pas vous dire. En fait, on se dit, ouais, sympa, mais cette approche n'est pas nouvelle. En fait, le Leitz Phone 1 est une variante de l'Aquos R6 de Sharp. En fait, c'est le même smartphone que celui qu'ils ont, enfin que Sharp a fait et pour lequel Leica a aidé. Ils ont juste recarrossé en fait l'Aquos R6 de Sharp qu'on ne connaît pas parce qu'il n'est pas vendu en France. Celui-ci a aussi un capteur photo d'un pouce et a les mêmes droits de partenariat avec Leica. Alors bien évidemment, Leica l'a recarrossé, donc on a affaire à quelque chose qui ressemble, qui est assez joli hein, d'ailleurs, je le remontre. En tout cas, ce qu'on en voit est assez chouette. On aura même un bouchon d'écran pour faire un peu plus genre photo. Donc voilà, c'est vraiment un produit pour les fans de Leica en fait. C'est pas avoir le smartphone assorti à ton petit appareil Leica de hipster. Donc voilà, c'est surtout le design qui va être différent. Il y aura un écran OLED de 6,6 pouces avec une définition de 2730 par 1260. Cette dalle peut grimper jusqu'à 240 Hz grâce à la technologie IGZO développée par Sharp. Le smartphone dispose de 256 Go de stockage et d'une batterie de 5000 mAh et la possibilité d'ajouter une carte micro SD, une présence bien évidemment bienvenue puisqu'il peut prendre des photos au format RAW. Après, à voir si effectivement la carte micro SD est facilement accessible pour pouvoir effectivement changer de carte SD pour les prises de vue. Pour l'instant, le Leica Lights Phone 1 n'est pour l'heure disponible qu'au Japon, donc vous réjouissez pas trop vite. Avec l'opérateur SoftBank, il est annoncé au prix de 187 920 yens, soit un peu plus de 1400 euros. Il est fort peu probable qu'on verra ce smartphone en France. Donc vous réjouissez pas trop vite. Sur le papier, c'est costaud ou peut mieux faire. C'est pas mal, c'est vraiment chouette, un capteur de 1 pouce. C'est pas non plus révolutionnaire. C'est pas genre... En tout cas, en spécification technique. Après, rappelez-vous qu'en photo smartphone, le traitement informatique de l'image est un pilier hyper important de la qualité photo qu'on obtient sur un smartphone. Mais c'est pas un smartphone qui bouleverse complètement ce que c'est qu'un smartphone photo, en fait. Je pourrais l'essayer et je ferai un feedback. Ben voilà, Marutan, si tu peux t'en procurer un au Japon. Désolé, mais ce téléphone est aussi cher qu'un Samsung Flip. Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre ta réaction, Coralienne. Entre un flip et celui-là, il y a autant de différence que entre une crêpe et un osso buco. J'ai un peu faim. Je dirais que voilà, le flip est un smartphone pliable. Là, c'est un smartphone haut de gamme pour la photo, mais il n'a rien de pliable. Enfin, tu vois, à ce moment-là, tu peux dire, je sais pas, une. Un canapé est plus cher qu'une glace. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop ce que tu voulais dire. Merci DJ Dactylo pour ton abonnement niveau 1. J'ai d'ailleurs raté du monde dans les abonnements. Merci Wormhole Theory aussi pour ton prime de 12e mois d'abonnement. Merci Kenshiro aussi pour ton abonnement. Pour ton Prime, 8 mois. Merci Corentin pour ton Prime, 3 mois. Merci Dank06 pour ton Prime, 8 mois. Merci à vous. J'ai englouti toutes les glaces hier soir. Attention, pas trop de glace, ça donne mal au ventre et ça rafraîchit pas forcément. La vraie question de ce genre de smartphone, c'est leur capteur 1 pouce. Est-ce qu'ils réalisent avec un RX100 auquel cas il y a un réel intérêt? Alors, oui et non, parce que quand tu t'y connais un petit peu, oui, le capteur est d'un pouce, mais regardez la taille de l'optique. On n'est quand même pas dans une taille de verre équivalente même à un RX100, même si je pense que les capacités s'approchent du RX100. Mais justement, les RX100, moi, c'est des appareils que je trouve un peu décevants en ce moment. Le Z1, je l'ai testé, même si j'en ai pas fait une vidéo. Ça donne pas des résultats bouleversants par rapport à un bon smartphone, justement. J'ai ouvert, ça y est, j'ai fait manger tout le monde. Comment Leica se situe face à la concurrence? Tu veux dire en photo? En photo, Leica est vraiment une marque à part. C'est une marque de fans de Leica. Ils vendent des appareils photo très chers, avec des performances... Comment dire ça sans être mauvaise langue? On va dire que les performances de Leica sont légendaires pour les fans de Leica. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est d'excellents appareils photo à un prix que moi, je ne paierais pas pour avoir cette qualité photo. Non, c'est pas le Apple de la photo. Je ne comparerais pas du tout ça à l'Apple de la photo. C'est plus... Ça va plus être un Hermès... Enfin, c'est vraiment une marque de... Pas de... Non, en voiture, on trouverait peut-être plus l'équivalent. Je ne m'y connais pas beaucoup en voiture, mais en ce moment, je regarde pas mal Villebrequin. Il parlait, je crois, de Lamborghini, qui n'est pas une marque qui fait des voitures qui sont extraordinairement bien, mais elles sont légendaires. Je les comparerais plus à un Lamborghini, en fait, qu'à un Apple. Non, mais je t'en perds, je dis pas qu'ils font des appareils photo qui sont pas à la hauteur technologiquement. Hein. C'est justement, ils sont même en avance sur certains trucs. C'est des très bons appareils photo, mais à des prix fichtres. Non, attention, pour avoir eu un Leica en main... C'est d'excellents appareils et leurs objectifs sont magnifiques. Moi, j'ai testé des objectifs Leica justement pour les Panasonic, puisqu'ils sont sur la même monture. Ils sont magnifiques, mais l'objectif, il est à 8000 euros, quoi. À toi aussi, Jérôme, t'es tombé dans l'addiction Villebrequin. Bah, putain, mais ils sont... C'est normal, quoi. Sont bons, c'est con. Ouais, un objectif Leica, c'est 8000 euros l'objectif. Hein. Après, en fait, tout le débat, c'est est-ce que tu en as pour ton argent? Pour certaines personnes, oui. Moi, je dis peut-être que c'est un peu mieux que tout le reste, mais le petit peu mieux, tu le payes super, super cher, quoi. Mais si c'est un aussi petit public, pourquoi en faire la promotion sur un smartphone? Ben justement, Leica est une marque, peut-être, qui a des parts de marché assez petites, mais qui a une notoriété mondiale. Et le marché de la photo, aujourd'hui, c'est le marché des smartphones. On n'a jamais pris autant de photos dans le monde, il n'y a jamais eu autant d'appareils photo dans le monde. Mais si tu intègres les smartphones dans les appareils photo. Non, Peak Design, non. Non, vous cherchez, vous avez des mauvaises analogies. Hasselblad, c'est Bugatti, ouais, il y a un peu ça, ouais. Leica, c'est voilà, la pastille rouge Leica. Quand tu t'intéresses un tant soit peu au marché de la photo, tu connais Leica. La plupart des gens n'ont jamais eu un Leica en main et n'en auront jamais en main, mais ils connaissent, il y a une aura de prestige autour de Leica, quoi. Alors, pareil, je dirais pas les Stradivarius, parce que Stradivarius, c'est pas aussi rare quand même que des Stradivarius. Et comme on n'imprime pas ces milliards de photos, notre utilisation sera invisible dans 1000 ans. Ouais, en même temps, technique savoir, on pourrait imprimer toutes les photos qu'on veut. Hop, une grande inondation façon Noé. Et hop, tes photos papier, t'en fais quoi? C'est pour ça que je les comparerais plus à un Hermès. Hermès qui fait des certains produits grand public, qui a plus de 10 000 euros à claquer dans une boucle de ceinture, mais qui fait aussi des trucs très haute couture, encore plus cher que ça. Ouais, je les comparerais plus peut-être à Hermès. Ouais, je sais pas. C'est difficile de trouver une analogie. Stradivarius, c'est pas une marque de fast fashion. Non, Stradivarius, c'est les violons. Si ta question n'était pas une blague. Il y en a qui jurent que par ça au niveau appareil photo. C'est une philosophie. C'est clair que moi, ce que je dis souvent, c'est que Fuji est le Leica de celui qui n'a pas un budget Leica. C'est des marques qui ont leurs fans. Ça donne un certain style de photo. D'après certains fans, ils peuvent reconnaître immédiatement si la photo était prise avec un Leica. Voilà. Ah d'accord, il y a aussi un truc de fashion qui s'appelle Stradivarius. Je n'étais même pas au courant alors. Pardon, alors désolé, c'est moi qui passe pour un... Alors, marque de mode, j'y connais rien. Moi, ma haute couture, c'est Célio, hein, donc. D'accord, je savais pas qu'il y avait des magasins de vêtements Stradivarius, pardon. Je supporte pas les possesseurs de Leica, ils sont souvent arrogants. Il y a beaucoup de photographes qui sont arrogants. Quand est-ce que tu vas drifter en bus avec Villebrequin? Oh, je l'ai vu cette vidéo. Quand même, truc de taré. Le caméraman qu'ils ont failli écraser. Non, mais en plus, c'est un mauvais exemple pour la jeunesse, hein, ce qu'ils font, Villebrequin. Surtout que, généralement, dans leurs vidéos, ils font plein d'avertissements. Ne faites pas ça chez vous, on a fait ça dans des conditions de sécurité et tout. Ouais, le drift avec le bus, les conditions de sécurité, je suis pas sûr, hein. Arrogant jusqu'au moment où ils nous montrent leurs photos. C'est très arrogant, ça, Hyponomie, de dire ça. Ils ont failli écraser leur caribou, tu m'étonnes. Bon, ouais, comment on est parti de Leica et on parle de Villebrequin? Décidément, ces garçons sont partout. Passons à l'article suivant, surtout qu'on a pas mal d'articles. Allez, fonce, Alphonse. On va parler de l'E3 2021, les meilleures annonces de cette édition. On va regarder ça ensemble, je ne vais pas passer des extraits de tout. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'E3, on va faire un bref rappel dans les grosses annonces. Hein, on ne va pas tout faire. Avatar, Frontier of Pandora, qui au-delà du jeu, dans l'univers d'Avatar, était intéressant puisque c'est le nouveau moteur graphique sous drop d'Ubisoft. Je passe un petit extrait pendant que je parle. Et c'est vrai que, bon, là, vous voyez rien avec la compression Twitch, mais ça claque sa mère. Ça claque sa mère. Voilà, c'est le terme technique. Le moteur graphique a l'air ouf. Et c'est le moteur du jeu, hein, là, que vous voyez. Hein. C'est pas... enfin, c'est le moteur du jeu qu'on montre à l'E3. Précisons. Mais ça a l'air quand même assez violentissime. Assez violentissime. Après, est-ce que c'est un bon jeu? On ne sait pas. On verra en 2022. On attend également Mario et les lapins crétins, un cross de licence. Donc, Ubisoft et Nintendo qui travaillent main dans la main. Donc, ça sera Mario plus les lapins crétins, Sparks of Hope. Petit extrait, mais là, on ne voit pas le gameplay du tout. C'est la bande-annonce, mais juste pour que vous voyez Mario et les lapins crétins. Ça marche plutôt bien ensemble, avec des princesses lapins crétins. Qui, j'aime bien, elle, l'espèce d'ado goth princesse lapin crétin mélange, quoi. C'est une suite, c'est pas nouveau. Bah, décidément, je suis vraiment au courant de rien. J'avoue que ni Mario ni les lapins crétins ne sont dans ma culture. Donc, je switch avant de passer pour un crétin tout court. Rider Republic, l'une des belles surprises de la conférence Ubisoft. Une présentation de gameplay de Rider Republic qui sera un jeu développé par Ubisoft Annecy qui proposera à la fin d'été du fun et encore du fun. En ski, en snowboard, en vélo, en parachute, il y en aura pour tous les goûts dans ce MMO de sport extrême qui réunira 64 joueurs. Donc vous pourrez vous prendre pour le nouveau sponsorisé Red Bull. D'ailleurs, Red Bull est dans le jeu, hein, on s'en doutait un petit peu. Et faire des sports de folie sans bouger votre cul de votre canapé et en prenant absolument aucun risque. Voilà, hein, vous pourrez faire du glide truc, du... Voilà, bah, du vélo avec... Ouais, d'accord, il y a des trucs un peu délire, manifestement. Voilà, vous pourrez faire tout un tas de choses. Ça a l'air fun. Cela dit, ça a l'air fun. À voir comment est développé le côté MMO pour un jeu comme ça, quoi. Vous pourrez donc... voilà, là, on voit surtout le parachutisme, mais il y a aussi... Il y a aussi du vélo, hein. Waouh. Là, ça me donne un peu le vertige, leur truc. Oh là, là, ça donne carrément le vertige. Ah, c'est pas mal fait, en tout cas. Pas mal fait. Et voilà du snowboard, également. Des courses de masse, ça a l'air délire. Ouais, ça peut être assez fun. Oh, le petit clin d'œil à E.T., sympathique. Ah ouais, ouais, c'est sympa ça, une course dans la neige à 64, ça peut être rigolo. Pour peu qu'on puisse faire des coups de pute aux autres, ça peut être fun. Ça me plaît bien comme idée. Ah ouais, carrément. Oh là là, on va pouvoir jouer les moucherons sur l'autoroute. Fantastique. Allez, on continue. Tiny Tina Wonderland. Non, Wonderland, je pense qu'il y a une faute de frappe. Alors moi, j'avoue que je ne connais pas du tout l'univers de Borderland. Je pense que vous êtes plus au fait. Jeu largement inspiré du DLC de Borderland Tiny Tina et la forteresse du dragon. Ça sera un tactical RPG, donc un jeu de rôle tactique dans l'univers de Borderland. On regarde quelques images rapidement. Voilà, donc vous retrouvez effectivement cette fameuse patte graphique avec cette magnifique licorne. On va peut-être... Ouais, on n'a pas tellement d'images, on a surtout des titres qui défilent. Mais ça a l'air pas mal. Jérôme, tu nous fais un live sur ce jeu. J'ai pas de con. Ah oui, j'ai oublié de dire. Est-ce qu'il est sur. Il sera sur PC. Oui, bon, écoute, on verra. On verra. Ça aussi, ça sort début 2000. Alors, ça sort 2022. Sur toutes les plateformes, on va dire. Sauf, effectivement, Switch, mais voilà, PS4, Xbox, PC, PS5, Xbox Series X et S. Starfield, on en a déjà parlé, on a déjà regardé la bande-annonce ensemble. C'est Skyrim dans l'espace. Ça a l'air excito de ouf. Moi, ça me hype bien. J'ai hâte de mettre ma main dessus. J'avais adoré Skyrim. Bethesda est plutôt pas mal pour écrire des histoires. À voir ce que ça peut donner. C'est un Privateer-like pour les plus anciens d'entre vous. J'en ai passé des heures sur Privateer. J'ai bien envie de me remettre à ce type de jeu. Donc ça peut être assez sympathique. En tout cas, ça a l'air assez excitant. Ça arrivera le 11 novembre 2022 sur Xbox Series X, S et sur PC. Starfield, moi, ça me hype bien. Battlefield 2042, uniquement du multijoueur, mais on ne lui en demande pas plus. Par contre, ça a l'air de déchirer pas mal en multijoueur, ça tire dans tous les sens. Ambiance très grande ville en ruine, où Et oula, ça tire dans tous les... C'est le genre de jeu où moi, je dure 2 secondes, là. Généralement, je spawn et je meurs. Ça résume un peu mon expérience de ce type de jeu. On a vu donc une première vidéo du gameplay du très attendu Battlefield 2042. C'est la seule chose qu'on trouve à dire, c'est que ça déménage vraiment. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. J'irai peut-être faire un tour là-dessus quand ça sortira. Les vélos dans la neige chez le Mégavalanche. Ah ouais, d'accord, je savais pas. On continue. Halo Infinite. Douche froide, a priori. Au niveau du gameplay de l'année dernière, Microsoft et 343 Industries ont dévoilé une bande-annonce de Halo Infinite. On voit pas le gameplay, donc pas vraiment d'intérêt. Une cinématique rassurante, pour peu qu'une cinématique puisse être rassurante. En lot de consolation, on a droit à un trailer de gameplay du mode multijoueur pour le jeu qui est toujours attendu pour la fin d'année, sans plus de précision. Voilà. Jeu très attendu, beaucoup de pression hein, quand même sur Halo Infinite. À voir ce que ça donne. Douche froide mais multi gratuit, ouais, ça peut être intéressant. Ça sent le nouveau Vaporware Halo Infinite. Peut-être. Sortie prévue Noël 2021 sur Xbox Series XS. Xbox One et PC. Voilà pour Halo Infinite. On continue Plague Tale Requiem. Alors j'avoue que j'ai pas joué au premier Plague Tale. J'en ai entendu beaucoup de bien. Un concept de jeu qui a l'air super original, développé par les Français de Osobo Studio, où, si j'ai bien compris le concept, il y a des nuées de rats dans une ville moyenâgeuse contrôlée par une intelligence artificielle. Et le jeu, justement, c'est de canaliser cette marée de rats. Vous jouez Amicia et Hugo, donc deux jeunes dans cette ville du Moyen-Âge. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas joué au premier. Je sais qu'il y a des gros fans qui attendent vraiment la suite, donc Plague Tale Requiem, la suite de l'excellent Plague Tale Innocence. Ça m'a donné envie de... Je vais aller voir s'il est en promo Plague Tale Innocence. J'ai envie d'y jouer, quoi. Le premier Plague Tale vient de recevoir une update next-gen. Eh ben, raison de plus. T'as été après 2 minutes, t'as eu trop peur. D'accord, Jess. Ça, ouais, non, moi, je suis trop un frouillard. C'est pas mal, le frouillard. C'est un bon mélange. Il est dans le Game Pass. Ouais, mais j'ai pas le Game Pass. Moi, j'ai pas de console. J'ai qu'un PC, moi. Remarque, le Game Pass, on peut le prendre sur PC aussi. Je devrais peut-être prendre le Game Pass. Vous me donnez des idées, là. On continue. Fly Simulator. Moi, c'est pas ma cam non plus. Mais je sais que certains d'entre vous sont des gros fans. Fly Simulator, développé du côté de Bordeaux et d'Asobo. Nouvelle série de vidéos de Microsoft Fly Simulator qui arrive le 27 juillet sur Xbox Series X et Series S. En bonus, le DLC Top Gun sera disponible dès la fin de l'année. Donc si vous voulez vous Tom Cruiser, ça sera bientôt disponible. Il est, alors, c'est pas du tout ma tasse de thé, hein, Fly Simulator. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, enfin, c'est beau. En même temps, c'est con de dire c'est beau. Ça ressemble à du vrai vol. Donc, c'est beau, le vol. En fait, c'est bizarre de dire qu'un truc, il est beau quand ça s'approche autant du photoréalisme. C'est la nature qui est belle. Ah oui, je crois qu'en ce moment, en tout cas, il a enterré tous les autres simulateurs de vol. Mais waouh. Moi, ça me donne... En fait, ouais, voler, ça m'excite pas plus que ça, en fait, dans Flight Simulator. Mais rien que de me balader dans un monde comme ça, c'est chouette. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau de réalisme. Le monde est beau, éteignez vos consoles et sortez. Tout à fait. Moi, en fait, je vais vous dire, alors je pense que ça a changé, mais les premiers, enfin pas les premiers Flight Simulator, mais ce qui me frustrait toujours dans Flight Simulator, c'est que je ne pouvais pas tirer des missiles ou de la mitraillette avec mes avions. Et moi, si je ne peux pas tirer, ça m'emmerde. Alors après, il y a eu Combat Flight Simulator et tout ça. Mais après, je suis nul, en fait. Mais bon, voilà. Moi, s'il n'y a pas de baston, ça m'emmerde. J'ai essayé, les graphismes sont bien, mais le gameplay laisse à désirer et la difficulté. D'accord. Ok, tout le monde n'est pas d'accord. Merci, Caligon, pour ton prime. Merci aussi, New Golgot, pour ton prime 8 mois. Merci. Merci à vous. Et bienvenue à toi, Caligon, chez les contributeurs. Ace Combat aussi, très bon jeu, ouais. Ouais, il n'y a pas de série sur les missiles de l'A320. Ce serait cool, n'empêche. Enfin, non. Ça doit être aussi manœuvrable que... punaise, je viens de réaliser que j'ai 80 000 Nowtech Points. Je vais pouvoir m'acheter une Tesla, vous croyez? Peut-être, on n'en sait rien. Enfin, rêve pas trop. Outer World 2, j'ai vraiment l'impression d'avoir tellement, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai tellement plus de temps pour jouer vraiment que je passe à côté de super jeux. J'ai pas joué au premier. Est-ce que vous connaissez les premiers Outer World? En tout cas, on en sait pas tellement plus. La suite du très bon RPG Outer World est en développement. Hélas, à part ce très sympathique trailer, on ne sait pas grand-chose, même pas la période de sortie. Ça a l'air beau aussi. Ça a l'air de beau. Là, 380, il ne faut pas des missiles sous les ailes, mais des tourelles, tout à fait. Ça a l'air classe. Ça a l'air classe, ça a l'air classe. On continue. Alors ça, je sais, pour l'avoir entendu dans le chat, beaucoup d'entre vous sont ultra hypés par Forza Horizon 5. Moi qui suis pas... Putain, j'ai l'impression en fait de n'avoir aucun style de jeu, parce que tous les jeux que j'ai présentés, je dis c'est pas trop mon style. Mais alors, s'il y a bien un type de jeu qui m'intéresse pas du tout, c'est les jeux de conduite. Mais j'avoue que celui-là, là aussi, pareil, il n'y a pas un mode piéton, juste pour que je me balade, ou à cheval. Mais, ouais, graphiquement, ça... Wow. On en est là, quoi. Là, je fais un peu ma réflexion de génération Xer. C'est des graphismes dont j'ai rêvé étant gamin, adolescent. Et de voir ça, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Forza Villebrequin Edition. Ah, ça pourrait être... Ouais, je pense qu'ils feront quelque chose pour la sortie de Forza. Il y aurait quelque chose à faire. Ouais, mais un jeu de conduite, si tu peux drifter avec un bus. Ah, là, tout de suite, hein. Même pas les burn-out. Non, en fait, je me fais un peu chier dans les jeux de bagnole. J'adore, par contre, les jeux genre GTA ou Cyberpunk 77, où tu as des phases de conduite dans ton aventure. Ça, j'aime bien. Mais un jeu où tu peux que conduire une bagnole, ça me saoule. Et c'est pareil, à la limite, avec un simulateur de vol. un jeu où je peux piloter des avions, mais aussi faire d'autres trucs, ça m'éclate d'avoir des petites sessions de vol. Mais un jeu où je peux que faire du vol, ça ne m'intéresse pas. C'est bizarre. Enfin, je ne sais pas si je suis bizarre. Je suis bizarre, ce que vous êtes en train de vous dire. Jurassic World Evolution. Annoncé par Jeff Goldblum lors de la cérémonie d'ouverture. Jurassic World Evolution 2, une nouvelle fois illustré au cours de la conférence. L'occasion de découvrir en images des gameplays inédits. Alors, a priori, j'ai pas joué à ça, mais ça a l'air d'être de la gestion de parcs préhistoriques. Donc, en gros, tu mets des dinosaures, puis tu attends qu'ils fassent des petits. C'est un petit peu ça. Go GTA 5. J'ai jamais joué à GTA 5, j'ai pas eu le temps. Je l'ai en plus sur mon PC, mais je n'y ai pas joué. J'avoue que de plus j'avance, plus les trucs genre open world, j'adore. Moins je suis limité dans ce que je peux faire dans un jeu, plus je kiffe. Hein. En fait, tu vois, les jeux de bagnole, j'ai toujours eu envie de sortir du circuit et aller grimper sur la montagne que je vois en face pour me balader, quoi. Il y a deux crews qui proposent voiture, moto, avion. Ouais, ouais. Oh, mais en fait, oui. Vraiment, le type de jeu... Alors, les jeux de stratégie, c'est mon type de jeu préféré. Vient après les jeux de rôle, mais dans les jeux de rôle, les open world, je kiffe grave, quoi. Ouais, mais Zelda, j'ai pas... Il faut que vous m'achetiez une Switch, quoi. J'ai pas, moi. Justement, on va en parler. Metroid Dread, pour les... Alors, pareil, même à l'époque où Metroid Dread est sorti et tout, moi, les jeux de plateforme où il faut énormément de skills, je suis vraiment pas bon. Là, c'est manifestement le Prime 4 Nintendo qui va le sortir, qui l'avait prévu pour la DS, qui s'est beaucoup fait attendre, qui va débarquer sur la Switch dans un univers en 2D, donc un peu old school, mais ça a l'air quand même chouette. Il y a l'air d'avoir des séquences 3D à certains moments pour les fans de ce type de jeu. Ah, je vois qu'il y en a qui attendent Metroid comme le Messi, quoi. Ah, il y en a pour qui c'est le best hype E3, ok. Moi, j'avoue que ça me fait pas grand-chose, ce type de jeu, mais je comprends d'abord parce qu'il y a un aspect quand même nostalgique énorme dans ce type de jeu et que c'est vraiment des jeux à skill, quoi. Moi, je suis pas assez patient pour ce type de jeu. Alors, Crusader King, bonne question, et Dazzy, j'hésite à me le prendre. J'ai peur que je prenne trop de temps à apprendre à y jouer. Il a l'air quand même assez complexe. Je ne sais pas. On verra avec quoi je redémarre. Mountain Blade a été pas mal patché. J'ai envie de reprendre aussi. On verra. WarioWare Get It Together, plein de mini-jeux qui arrivent sur la Switch dès le 10 septembre. Préparez-vous à découvrir plein de mini-jeux, je vous passe pas la démo. Et bien sûr, la suite de Legend of Zelda Breath of the Wild, ultra, ultra attendu, annoncé depuis l'E3 2019. On n'a pas vraiment d'image. Prévu l'année prochaine en exclusivité sur Nintendo Switch. Ce jeu a clairement marqué son temps. Il est attendu, lui, vraiment comme le Messi pour le coup. La bande-annonce a l'air assez énigmatique, assez superbe. Titre provisoire, effectivement. On ne sait pas du tout comment il s'appellera pour l'instant. Mais ouais, ça a l'air classe. Je regrette de ne pas avoir joué au premier. Si un jour j'arrive à mettre la main sur une Switch, ça sera vraiment pour jouer à Zelda, quoi. « C'est lui le Messie, oui, tout à fait. Le premier Zelda est un pur chef-d'œuvre, tu dois absolument l'essayer. Ouais, je sais, je sais. Hiroki Tsui, oui, je t'ai vu, spam pas trop, si peut-être c'est un très bon RPG. Nier Replicant Automata, c'est des putains d'expériences. J'en ai jamais entendu parler, mais je merci de l'information. Oui, je pense que si un jour j'achète une Switch, ça serait pour Zelda. Mais le truc, c'est qu'en ce moment, j'ai même pas le temps de jouer à quoi que ce soit. Donc, je vais pas avoir le temps pour. Mais un jour, peut-être que j'y jouerai. Voilà, en tout cas, pour les annonces de l'E3, il faut que je speed parce que on est très très en retard. Pour vous parler d'OK, vous connaissez la marque OK, vous savez qu'elle a été retirée d'Amazon. Et ben maintenant, c'est au tour de RAV Power. Et aussi, je l'ai appris dans un autre article de Tao Electronics. Qui fait partie du même groupe que RAV Power. Pourquoi ces marques sont retirées d'Amazon ? Et ben simplement parce qu'elles trichent avec le système des avis. Et dans le cas de RAV Power, c'est qu'ils fournissent des cartes cadeaux de $35 en échange d'une évaluation du produit reçu, ce qui va à l'encontre de la politique d'Amazon. On n'a pas le droit, on peut inviter fortement une personne à laisser un commentaire, mais on ne peut pas mettre des incentives, on ne peut pas payer les gens, ni leur faire des bons d'achat. Pour qu'ils aillent mettre des commentaires positifs en plus, parce que du coup, ils ne sont validés que si le commentaire est positif. Donc là, c'est vraiment du détournement d'avis. Et ça, on peut comprendre. Alors, là, c'est vrai que si vous regardez en termes de câbles, de chargeurs sur Amazon, depuis qu'ils n'ont plus OK, ils vont plus avoir RAV Power, ça commence à se voir qu'il manque des marques. Mais pour le coup, Amazon a quand même raison. Parce que à moyen terme, ça détruirait complètement Amazon si le système devenait presque... En fait, tout le monde était au courant de ce système, que les avis étaient payés. Moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui ont des produits gratos en étant testeurs Amazon. Mais c'est vrai que... et moi, je leur ai dit, mais en fait, quelque part, vous faussez complètement le système. Parce que j'ai assez vite vu le problème. En tout cas, Amazon a vraiment l'intention de faire la chasse à ça. Et ils n'hésitent pas justement à fermer leurs portes à des très grosses marques. Et c'est vrai que ces très grosses marques, on pourrait dire, ils sont complètement cons parce que leurs produits sont vraiment pas mal. Moi, RAV Power, j'ai quelques trucs RAV Power, ils marchent très bien. Ils devraient, enfin, ils n'ont pas besoin de forcer les avis positifs. Alors, je dis ça en même temps, on sait très bien que les gens qui sont contents d'un produit vont jamais le dire. Il n'y a que les gens qui sont mécontents d'un produit qui vont parler. C'est une des grandes difficultés. Moi, je me mets aussi à la place des constructeurs. Une des grandes difficultés sur le système des avis, c'est que les gens consultent beaucoup les avis. Or, vous savez qu'il n'y a que les râleurs qui vont poser des avis. Donc, vous vous retrouvez parfois avec 2 étoiles, 3 étoiles sur votre produit alors qu'il est bon, parce qu'il n'y a que des râleurs qui sont venus râler, finalement, sur les avis. C'est compliqué. Donc, la tentation peut être grande d'essayer d'inciter les gens qui sont contents à venir laisser des commentaires positifs pour contrebalancer. Le truc, c'est qu'Amazon bénéficie également du système non-hibou. À long terme, Amazon a beaucoup à perdre s'il s'avère que le système des avis est complètement verrouillé. On sait tous qu'il n'est pas ultra fiable, même pas du tout fiable. Quand on est un peu prudent, on s'y réfère qu'à moitié au système des avis. Mais il est quand même extrêmement consulté. Donc, c'est quand même un truc très embêtant pour Amazon. Donc, moi, je trouve qu'ils ont raison de faire la chasse. On termine avec Apple. Apple qui vous pourrait ouvrir des corners dans les boutiques LG en Corée. What the fuck? Effectivement, LG et Apple sont en discussion pour un partenariat qui verrait le premier vendre une partie des produits du second dans les boutiques coréennes. Effectivement, en Corée, il y a 400 best shops de LG en Corée du Sud et qui pourraient accueillir les iPhones, les iPads et les Apple Watch. Les produits d'Apple profiteraient de l'espace laissé vacant par le retrait de LG du marché du smartphone. LG a décidé de ne plus vendre de smartphones. Par contre, il n'y aurait pas de vente des Mac, parce que je ne le savais pas, mais LG fait aussi des PC. Il a une gamme de portables avec les grammes. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que LG fait aussi des tablettes, mais il laisserait vendre l'iPad. Peut-être tout ça est en négociation. On n'est pas encore sûr. LG n'a ni infirmé la possibilité que ça se fasse. Est-ce que Apple y trouvera un intérêt? Certes, oui, parce que la présence d'Apple en Corée du Sud est très timide. N'oubliez pas, Corée du Sud, pays de LG, mais pays de Samsung, pays quand même de grands fabricants d'électronique. Apple a du mal à asseoir sa présence. Même s'ils ne vendent pas si mal que ça en Corée du Sud, ils ont du mal parce qu'il y a presque un achat patriotique en Corée du Sud de produits des grands groupes coréens. Et à titre de comparaison, Apple a 10 Apple Store au Japon. Ils n'en ont que 2 en Corée du Sud. Une à Séoul et l'autre, on sait... Non, 2 boutiques à Séoul, chacune de petite dimension, voilà. Donc, les Chinois sont de grands tricheurs. Mais on ne parle pas de Chinois, on parle de Coréens, là. Ou alors tu nous fais un truc à la OSS 117 Les Chinois du Japon Même au Japon, 10 c'est peu. Oui. Non, je ne serai pas à Vivatech. Je te répondrai tout à l'heure, Graven. Je suis en travaux, moi, demain. Mais Guillaume et Léo vous feront une couverture live. Ils n'y seront pas en présentiel, mais ils vous feront une couverture live de Vivatech. La Corée du Sud, c'est plus petit que le Japon? Non, je crois pas. Hein. Énorme part de marché, smartphone au Japon, pourtant 2 fois plus d'habitants au Japon qu'en Corée du Sud. D'accord, ok, je ne savais pas, merci pour l'info. Maori doit parler d'OK et de Rafa. Ouais. Ah oui, il y a peut-être eu des discussions croisées. Merci Guillaume Brogui pour ton abonnement. Oula Jérôme, faut réviser la géographie. Ouais. Vous croyez que je sais tout? Non, je ne connais pas les populations de la Corée du Sud. Je me fais harakiri. Qui m'a pas préparé mes fiches aussi? Hein? Je vous le demande. Ils utilisent... C'est facile pour vous hein, de dire « Ouais, tu pourrais réviser ta géographie. » Le mec qui vient de vérifier sur Wikipédia la population de la Corée, tu sais, du Sud. Bah bon, 42, elle est où ma fiche sur la Corée, là? Hein? Merci, Tolkaft, pour ton Prime 3e mois d'abonnement. La Corée, c'est pas son style de jeu, enfoiré, Olek. Hein, ouais, Baban, qui doit me faire mes fiches. Hein, bravo. Bravo, bravo. Allez, on continue. En tout cas, bon, bah, on verra peut-être ça. Le truc incongru. Ça m'étonne un peu de la part d'Apple, mais tout peut arriver. Après, Apple a des corners dans d'autres boutiques. Ils avaient ouvert les corners d'Apple Watch aux Galeries Lafayette quand ils avaient lancé l'Apple Watch. Ils ont été fermés depuis. Pourquoi pas? Mais dis donc, Apple s'ouvre vachement. Hein, ça commence à devenir un petit peu Marie couche-toi là quand même, Apple. Merci pour ta fiche, Baban. Très peu de Samsung au Japon d'ailleurs. Les Japonais s'envoient des mails plutôt que des SMS. Samsung a fait OSEF. Ouais. Apple en Corée du Nord. Allez, on va passer à nos sponsors. On a plein de choses à vous dire. Et on va commencer effectivement avec Pritel. Alors, comme je vous l'avais indiqué, normalement, on devait avoir le patron de Pritel aujourd'hui en fin d'émission pour répondre à vos questions. David s'excuse, il ne peut pas être là aujourd'hui, un impératif. On n'a pas pu retrouver une date avant l'arrêt du mug. Je vous rappelle que le mug s'arrête le 2 juillet pendant 2 mois. Donc on aura David à la rentrée, probablement en septembre, pour répondre à vos questions. En attendant, si vous avez des questions sur Pritel, n'hésitez pas à la poser sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de personnes qui peuvent vous répondre au téléphone, justement pour diminuer leur coût. C'est un des coûts qu'ils ont réduit, donc ils sont beaucoup plus performants sur les réseaux sociaux pour vous répondre. La grande population Japon. Ouais, il y a quand même une grande différence, effectivement, Japon et Corée du Sud. Ok, merci. Donc, vous pouvez profiter de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. C'est typiquement le genre de truc que vous pouvez faire, effectivement, pour les vacances. C'est un bon moment où on peut décider de changer de forfait. C'est des forfaits, bien évidemment, qui vont, effectivement... qui sont des forfaits mobiles flexibles, pardon, j'en perds un peu mon latin, tellement les offres sont incroyables, puisque ça va vous permettre de prendre un forfait, ça vous connaissez, mais ces forfaits seront variables selon la quantité de data que vous consommez. Et ça, ça peut être intéressant pendant les vacances. Imaginez, vous avez pris justement un forfait le petit, et que pendant les vacances, vous avez décidé de lâcher votre putain de smartphone, de vivre un peu, et de faire autre chose, et du coup vous consommez 0 giga, et ben vous ne payerez que 4,99€ ce mois-là, en tout cas la première année. Ou alors vous êtes en mode vacances influenceurs, je TikTok et j'Instagram mon moindre fait et geste, regardez comme je me coupe les ongles, regardez les rouleaux de PQ dans les... Bref. Enfin, vous voyez ce que c'est un Instagrammeur en vacances. Donc là, les datas, c'est... Il y en a beaucoup, beaucoup tous les jours. Et là, vous consommez, allez, on va dire 19 gigas de data. Et ben là, vous paierez 9,99€. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter à votre consommation de data. Ce qui est assez intéressant. Et je rappelle aussi, parce que c'est hyper important à comprendre, que vous êtes sur un véritable réseau, soit Orange, soit SFR, c'est vous qui choisissez au début. Contrairement à ce que certaines personnes croient, le réseau SFR est plus performant dans certaines régions que le réseau Orange. Donc c'est tout à fait légitime que certaines personnes choisissent d'être Pritel SFR plutôt que Pritel Orange. Voilà, voilà. Ça arrive là, eSIM. Ils n'ont pas encore, mais ça arrive là, eSIM. Et rendez-vous donc en septembre pour pouvoir poser des questions directement à David, le patron, le PDG de Pritel, le CEO de Pritel, qui sera là en septembre pour répondre à vos questions. Voilà, voilà. On remercie également notre deuxième sponsor, ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Vous pouvez obtenir 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en suivant le lien qu'on vous donne dans le chat et également dans le texte du replay de cette émission. Et il en est de même avec Pritel. Suivez bien notre lien. Je précise qu'on n'est pas en affiliation avec Pritel. C'est-à-dire qu'on ne gagnera pas plus d'argent avec Pritel si vous prenez un abonnement Pritel. Donc, on vous recommande la marque. On ne vous fait pas du push. Vas-y, prends mon forfait Pritel parce que je veux toucher ma com affiliation. Voilà, je vous précise. Par contre, nous avons une affiliation chez ExpressVPN. Donc, vas-y, prends le ExpressVPN. Voilà. Il faudra leur poser la question. Je crois qu'il y a une... c'est pas hyper intéressant, Pritel, pour les gens qui utilisent énormément de voix. Je sais. Après, est-ce que c'est toujours le cas? Je sais pas. C'est typiquement le genre de question qu'il faudra poser. Je voudrais également vous parler de Reporters sans frontières. Nous participons à une opération caritative pour Reporters sans frontières. Nous, c'est une association qu'on défend et qu'on subventionne, puisqu'on est pour la défense de la liberté de la presse dans le monde. Reporters sans frontières œuvre pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout sur la planète, en luttant contre la censure et en défendant concrètement les journalistes ou les médias en difficulté, persécutés en raison de leur activité. Reporters sans frontières soutient l'un des fondements de la démocratie. Moi, en tout cas, j'y crois très fort. Et vous allez pouvoir aider Reporters sans frontières avec une tombola. Tombola où vous allez pouvoir gagner des objets vachement intéressants. Lithographie de Dali fait par C215. Le portrait photo de Romy Schneider par Gilles Caron. La fameuse photo dont Marion parlait, signée Marc Riboud. Qui, je crois, contrairement à ce qu'elle disait, représente plutôt un étudiant de Berkeley, je crois, hein, avec la garde nationale, la garde nationale américaine. Enfin, je crois me souvenir que cette photo, c'est plutôt un étudiant de Berkeley. Mais je suis pas sûr non plus. Mais photo bien connue. Voilà, donc vous pouvez participer, vous pouvez tenter votre chance. Si vous tentez votre chance, effectivement, c'est vous pouvez acheter des tickets de tombola. Le minimum de tickets de tombola est de 5 euros. Hein, vous achetez 5 tickets de tombola et ça vous permettra de miser en fait sur les prix qui vous intéressent. Pour pouvoir aider Reporters sans frontières. La fin de cette tombola, c'est le 30 juin, donc il n'y a plus beaucoup de temps. Ne pas honorer une intervention. Non, Smart Tech, il a eu un empêchement de dernière minute. Ne voit pas des complots là où il n'y en a pas. Il a eu un empêchement comme ça peut arriver. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Ne voyez pas le mal partout. Et il est aussi embêté que nous. De quoi vous parlez d'autre? Bon. Voilà, en tout cas, on vous propose de tenter votre chance à cette tombola et surtout d'aider Reporters sans frontières au profit de la liberté d'information et d'expression à travers le monde. Voilà en tout cas pour les sponsors. Désolé, je patine un peu là en fin d'émission. Gros coup de barre. C'est des choses qui arrivent, gros coup de barre en fin d'émission. Mais on va quand même arriver à la fin de l'émission. On va lancer la tartine. La tartine, on va parler de VivaTech justement 2021. Vous me demandiez si j'y allais. Cette année, je ne vais pas y aller, en tout cas pas en présentiel, pour une raison toute bête. On est en travaux et montage de meubles. Effectivement, on a tous les meubles de la cuisine à monter avant que quelqu'un vienne nous aider à découper les meubles de la cuisine autour des tuyaux et les monter et tout ça. On a quelqu'un qui nous aide pour l'installation de la cuisine. Par contre, on a monté tous les meubles de la cuisine avant qu'ils viennent nous aider. Donc, on va faire un speed montage IKEA. Et ouais, ça sent les tendinites du tournevis. Parce qu'on ne fait jamais un meuble à la visseuse. C'est le meilleur moyen de le péter. En tout cas, on ne le termine jamais à la visseuse. Donc, moi, je n'y serai pas. Mais par contre, VivaTech, vous allez retrouver dès demain matin, 10h, 10h30, Guillaume et Léo Techmaker, si vous ne connaissez pas Léo Techmaker, super YouTuber, un ami de la chaîne qui vient justement nous donner un coup de main pour Vivatech, donner un coup de main à Guillaume, ils se connaissent très bien. Moi, je connais aussi hein, Léo. Et donc ça sera bah, une occasion aussi de rencontrer Léo si vous ne le connaissez pas. Un petit timelapse du montage de la cuisine. Non, c'est chez nous. Je ne vous montrerai pas beaucoup d'images de chez nous. Vie privée. Si elle a visseuse, il y a un limiteur de couple dessus. Ouais, je n'ai pas une visseuse aussi perfectionnée. Mais là, parlons un petit peu. Donc, à partir de 10h demain, ici, hein, sur Naotech QG, ils ne seront pas à Vivatech en présentiel, mais ils commenteront, ils animeront plusieurs heures de Vivatech à partir de notre Twitch. Donc, à suivre demain. Léo est déjà venu sur un mug avec Guillaume. Tout à fait. Donc, moi, je vais quand même vous parler de deux choses. Alors, Vivatech, on avait des places à faire gagner, mais ça y est, elles sont toutes gagnées. Donc, bravo aux heureux gagnants qui vont à Vivatech gratuitement à partir de demain, parce que demain, c'est ouvert justement au grand public. On va faire un petit florilège du type de choses qu'on voit à Vivatech, qui peut être assez intéressant. Je le rappelle, Vivatech, c'est un salon des innovations technologiques et numériques françaises, donc qui se tient à la porte de Versailles du 16 au 19 juin. Salon européen, pardon. Plus grand salon européen dédié à la tech, j'ai dit français, mais européen. Donc, il n'y a pas que des Français. Nous, on y était allés il y a 2-3 ans avec Marion. On avait fait une vidéo que vous avez très peu regardée. C'est pour ça qu'on ne fait plus de vidéos sur Vivatech. C'était hyper intéressant d'y être. On aurait dû faire des vidéos où on focusait vraiment sur certains produits qui étaient surprenants et pas essayer de faire une vidéo générale sur Vivatech. Ça, leçon retenue, si on va sur un salon tech, on fera plein de vidéos sur différents sujets, mais pas une vidéo genre « on est au CES » parce que ça vous intéresse pas en fait. Mais plutôt « j'ai vu un robot de malade à plus de 50 000 euros ». Ça, généralement, j'ai vu un ordinateur qui mange bleu. Voilà, ça, c'est le genre de vidéo que vous aimez regarder. Alors, le salon est pro jusqu'à ce soir et grand public à partir de demain. Naotech fait Vivatech en télétravail et c'est très bien pour nous, oui, tout à fait. J'ai vu un ordinateur qui mange bleu. Avouez que quand j'ai dit ça, j'ai vu un ordinateur qui mange bleu, vous avez eu dans votre cerveau une envie de cliquer. Écrit en majuscule, bien sûr. Mais effectivement, l'époque où vous étiez hypé par le fait qu'on aille sur des salons, je pense que c'est révolu, vous n'en avez rien à foutre. En termes de temps de travail, je raconte ça parce que c'est intéressant, c'est un peu les coulisses d'une chaîne YouTube Tech. Le reportage qu'on avait fait à Vivatech avec Marion, c'est une des vidéos qui nous a demandé le plus de temps au montage, parce qu'on a monté toutes les interviews qu'on avait fait là-bas, tous les trucs, c'était un boulot monstrueux, parce qu'il fallait dérusher chaque interview, faire des montages courts de chaque interview, horrible, et c'est la vidéo qui a fait quasiment le moins de vues de la chaîne au prorata du travail qui a été demandé. C'est typiquement le genre de vidéo qu'on peut plus faire parce que par rapport au temps de travail que ça demande et le nombre de vues, c'est absolument pas rentable, quoi. L'algo YouTube et le « je mange, insérer une couleur », c'est un peu ça. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que vous aimez les trucs qui mangent des couleurs. Enfin, je dis vous, au sens large, peut-être pas toi, mais vous. L'algo, il n'est là que pour nourrir ce que vous aimez regarder. Vous êtes les créateurs de l'algo. On est dans les facs, non, on est dans la tartine. Allez, on va parler justement de choses qu'on pourra voir à Vivatech cette année. Par exemple, un cloud dans l'ADN des plantes. Eh oui, Grow Your Own Cloud est une start-up fondée par Monica Seyfried, dont l'objectif est de stocker des données dans l'ADN d'organismes vivants, testés pour le moment sur des plantes. Le projet est encore dans une phase embryonnaire. Il s'agit d'insérer un petit fichier, photo, texte, en le transcrivant au format numérique. Ensuite, les scientifiques du laboratoire construisent l'ADN qui correspond au fichier numérique pour l'injecter dans la plante. Nous vivons dans un monde où les données polluent énormément. Cette innovation permettra de diminuer l'impact environnemental des données. Est-ce que injecter de l'ADN dans des plantes, je sais pas. Je m'y connais rien. Mais est-ce que c'est pas une forme aussi? Est-ce que c'est bien pour la plante? Je sais pas. Eh ben, allez les voir à Vivatech et posez-leur les questions de ma part. Une capsule de téléconsultation. Ça, ça peut être intéressant, notamment pour les zones peu couvertes, les zones géographiques, les déserts médicaux et les endroits où les hôpitaux sont très surchargés. Ça serait des espèces de pods, donc de cabines, pour faire un bilan de santé, pas complet, hein, pas un bilan de santé sans le médecin, mais avec suffisamment d'outils de mesure pour être connecté effectivement avec un médecin et faire un certain nombre d'analyses à distance. Pourquoi pas, il faut voir après les sécurités qui entourent ce genre de choses parce que s'il y a bien un truc qui est ultra confidentiel, c'est vos résultats de santé, de votre bilan de santé quoi. C'est vraiment pas le genre de truc qu'on a envie que ça soit hacké quoi. C'est clair. Je vais vous parler aussi, alors je ne parle pas de la téléportation virtuelle parce qu'il n'y a pas d'image et je n'ai pas bien compris ce qu'ils font. Le pod, je précise quand même, la AI pod, c'est développé par Bodio, une grande cabine arrondie blanche, voilà. Et une lampe pour atténuer la dyslexie. Vous voyez, c'est pas, le Vivatech, c'est pas non plus le concours Lépine, mais il y a pas mal de startups et parfois on voit des trucs débiles. Je vais être complètement franc avec vous. Moi, j'ai vu des startups. Tu voyais le produit, tu disais, mais qui a besoin de PQ connecté, quoi? Franchement, à 90 euros le rouleau, quoi. Qui a besoin de ça? Et pourquoi tu n'as pas fait le dérouleur connecté au lieu d'essayer de faire un papier connecté? C'est complètement débile. Enfin, on a vu, je dis n'importe quoi, hein, ça n'existe pas, hein, le PQ connecté, mais... On a vu des trucs très débiles. On a vu des trucs très, très débiles. Mais là-dedans... on voit aussi des choses intéressantes. Et là, par exemple, une lampe qui atténue la dyslexie. La dyslexie est un trouble qui concerne entre 5 et 10% de la population mondiale, dont moi, je suis dyslexique, vous en rendez compte tous les matins. La société LexiLife présente sa première innovation à Vivatech qui cible la difficulté d'apprentissage du décodage et de la compréhension de la lecture. La LexiLife est une lampe déjà sur le marché qui possède une technologie de lumière modulée et pulsée permettant d'envoyer une information au cerveau qui va atténuer les effets de la dyslexie en adaptant l'œil à une vision dite classique. Me demandez pas plus comment ça marche, mais pourquoi pas. Tu vendrais bien plus de rouleaux que de dérouleurs. Ah, pas con, Oleg, t'as raison. Et en dernier produit que je vous invite à aller voir, parce que moi, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, je trouve hyper intéressant, c'est The Box. C'est un emballage solide et réutilisable avec des étiquettes qui sont pas collées. Hein, c'est des étiquettes qu'on merde, comment ça s'appelle, en papier électronique. Il développe déjà ce produit depuis 4 ans. Le principe est simple. Vous achetez un produit, vous est livré dans le box. Et après, avec l'application, The Box se géolocalise. Vous réceptionnez l'achat. L'emballage The Box sera ensuite réutilisé pour un prochain colis suivant ou déposé au relais colis. C'est-à-dire que je ne connais pas tout le système, mais en gros, une fois que vous aurez sorti votre produit de la box, quelqu'un viendra reprendre la box pour l'utiliser pour une autre livraison. Oui, je l'avais présenté dans le mug, effectivement, The Box. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de suivre. C'est hyper malin, je trouve, The Box. très résistant en plus. Et c'est vrai que les cartons de livraison sont un fléau. Alors, c'est pas encore très répandu, hein, The Box, mais je crois qu'ils ont signé quelques contrats pas mal avec des distributeurs. C'est pas forcément un enfer logistique. Pas forcément à partir du moment où The Box, ils ont un GPS, parce que c'était ça. Tu peux les localiser facilement sur une carte. T'as un ramasseur de box qui vient reprendre les box. Et surtout, là où c'est même moins un enfer logistique, c'est que justement, avec la gestion de tes box ville par ville, tu vas pouvoir reprendre des marchandises dans la ville où les box sont arrivées pour les relivrer à une autre ville. Donc, il y a un truc intéressant. Ton chat désapprouve ce concept. Ben, tu lui achèteras la dernière boîte en carton. Pour se faire livrer un câble, c'est pas un peu gros. Il y a différentes tailles. Il y a différentes tailles. Ben, allez voir. Vous avez l'air d'avoir plein de questions et de savoir plein de choses. Moi, je vous dis, allez sur leur site, The Box, et allez leur poser des questions. Parce que vous êtes quand même plein d'affirmations, souvent, hein, dans le chat. Mais vous en savez pas plus que moi. Et moi, j'en sais pas grand-chose, en fait. Ce n'est qu'une revue de presse. Me demandez pas d'avoir des fiches. Oui, il y aura peut-être effectivement des initiatives type des commissions. J'ai vu d'ailleurs hier un reportage sur la gestion des ordures recyclables en Chine. Et ils ont un système que je trouve vraiment pas con. T'es payé si t'as vraiment amené... En fait, le gros problème des poubelles... alors à Paris, c'est les poubelles jaunes pour le produit recyclé. C'est que la plupart des gens mettent n'importe quoi. Et donc, l'entièreté de la poubelle est contaminée par des choses qu'on ne peut pas recycler. Donc, beaucoup de trucs ne sont pas recyclés. Là, en Chine, tu as des espèces de trucs où tu peux poser ton sac qui va être par code barre nominatif, ton sac. Donc, ils vont s'assurer que tu tries bien et que tu mets des choses qui sont vraiment recyclables dans le sac. Et là, ils te payent pour avoir amené ton sac de recyclage et te donnent un nouveau sac vide. Je trouvais ça très malin. Parce que, ok, ils perdent un peu d'argent en vous payant pour recycler, mais en même temps, ils en gagnent beaucoup en ayant beaucoup moins de tri à faire. Et Samuel a retrouvé le mug où je parle de The Box, ouais. Voilà, voilà un peu tout ce que vous pourrez découvrir à Vivatech. À ceux qui y vont en présentiel, je vous souhaite une bonne visite de Vivatech. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud, mais normalement ce week-end, ça se rafraîchit un petit peu. On n'aura pas de fac aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps, il est déjà 9h28. Je vous rappelle, demain matin, à partir de 10h-10h30, retrouvez Guillaume et Léo Techmaker pour une couverture de Vivatech. Ils seront non présentiels, mais ils auront plein de choses intéressantes à vous dire. Moi, je vais vous retrouver lundi matin. Ouais, lundi matin, on va dire ça. Lundi matin à 8h pour un prochain mug. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour cette semaine? Il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne, si vous ne l'avez pas vue, si ça peut vous intéresser. Je pense que même si ce n'est pas votre problématique, c'est intéressant. C'est Guillaume qui a testé une carte de chez Elgato. Qui permet pas de faire des gâteaux, ça c'est un peu triste, mais qui permet par contre d'utiliser quatre sources vidéo en même temps. C'est un espèce de sélecteur. Donc c'est notamment intéressant pour ceux qui se demandent comment on fait pour streamer du jeu vidéo avec ma tête dedans, faire des changements de caméra et tout ça, ça peut être une solution. Et le gâteau, le chat, exactement. Alors, qui est-ce qu'on va raider ce matin? Qui est-ce qu'on va raider? Eh ben, Bastille UI, hein? On va faire ça. C'est parti pour un petit raid. Le raid, je le fais pendant le générique de fin. Je vous fais de gros, gros bisous. Passez un très bon week-end. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Vous pourrez bien dormir dans la fraîcheur de l'été. Et sur ce, j'ai plus rien à vous dire. Si ce n'est, soyez bons, soyez forts et passez une très, très bonne journée. Ciao tout le monde!